ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Que ce soit dans son travail ou son action bénévole, Fatima Saya travaille sans relâche pour promouvoir le respect de la diversité et de tous les droits humains. À titre d'animatrice de la caravane de la tolérance pour l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, elle a offert à des étudiants de niveau secondaire des ateliers portant sur le respect de la diversité sous toutes ses formes et sur la lutte à l'intimidation. Elle est maintenant responsable du projet Empreinte, qui vise à sensibiliser, à former et à impliquer les élèves dans la recherche de la solution à l'intimidation et à la discrimination. Son charisme, son enthousiasme l'aident à engager le dialogue dans un climat d'ouverture et de paix. Elle a reçu la médaille de la paix 2014 du YMCA dans la catégorie coup de cœur pour son travail à l'organisme Ensemble pour le respect et la diversité. Nous la recevons tout de suite après. Fatima Saya, bienvenue dans nos studios. Avant de commencer l'entrevue, ben, félicitations parce que c'est, ça vient d'arriver. Parlez-moi de ce prix, là. C'est tout chaud. Là.
Oui,
c'est...
exactement. C'est vendredi passé, uh-huh. Donc c'est encore très, très frais. Oui.
Et comment ça s'est passé, cette remise?
Très, très bien. C'était un événement vraiment spectaculaire. J'ai apprécié beaucoup le fait d'avoir la chance de rencontrer d'autres gens aussi qui ont été des lauréats. Donc, c'était vraiment intéressant.
Est-ce que vous vous attendiez à ça?
Non, ben en fait, je savais d'avance un petit peu, mais quand même, j'étais un peu nerveuse.
Parce que c'est quand même gros, là, je veux dire, c'est grand comme titre aussi.
Oui.
C'est porteur, c'est vraiment au niveau de la paix.
Ouais.
Ça apporte un message, une récompense. Ouais. Et puis vous êtes toute jeune en plus.
Oui, en fait, j'ai juste 24 ans, donc d'après moi, j'ai pas encore fait beaucoup de choses dans ma vie. Je commence encore ma carrière en communautaire, donc je pense que j'ai aussi encore beaucoup à faire.
Beaucoup à faire.
Oui.
Alors, 24 ans toute jeune, c'est vraiment superbe. C'est un message
merci.
Aussi que vous envoyez à ceux que vous côtoyez dans les écoles et tout ça. Oui. Avec ce prix, j'imagine que vous allez le transporter un petit peu pour le montrer.
Oui. Ah, ben oui, ben j'ai... Il y a quelques élèves dans mes comités des jeunes qui ont entendu parler sur Facebook et des choses comme ça. Donc, ils m'ont demandé comment c'était. Il y avait aussi Simple Plan au événement. Ils étaient tous excités que j'avais la chance de rencontrer Simple Plan. Et il y avait même, j'ai pris des photos avec eux. Donc, les élèves sont quand même contents aussi parce que ça parle aussi de le travail que je fais avec eux et donc leur travail aussi.
Oui. C'est un petit peu d'eux aussi.
Oui, c'est ça, exactement, parce qu'ils ont fait beaucoup de changements dans leur milieu, dans leur communauté, dans leurs écoles. Et ça reconnaît ça aussi.
Alors, Fatima Saya, un bel accent.
Merci.
Des origines. Alors, est-ce que vous êtes née ici?
Oui, je suis née à Montréal. Mon père est pakistanais, ma mère est québécoise francophone. Donc, moi, je suis un mélange des deux. Mais par contre, je n'ai pas grandi à Montréal. Quand j'avais 2 ans, on est allé vivre en Arabie Saoudite. On était là pendant presque 15 ans. Je suis revenue, j'avais presque 17 ans, donc ouais.
Ah, c'est tout un parcours, ça.
Ben oui.
Donc,
oui,
alors, et donc pourquoi l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que...
Ben, en fait, c'était vraiment juste pour le travail de mon père. Il y avait une opportunité là-bas, donc on est allé. C'était quand même une aventure pour nous. Mais c'était vraiment une place extraordinaire, une belle communauté d'expatriés. Là-bas, vraiment une belle école, une belle enfance, en fait. C'était quand même Toute une expérience, ouais.
Toute une expérience. Ouais. Donc, alors, à l'école, comment ça se passe? Vous, est-ce qu'à ce moment-là, vous devez, apprendre la langue, comment, ou pas du tout?
Pas vraiment, parce que les expatriés, quand même, en Arabie saoudite, c'est une communauté très séparée. Donc, on vit dans des compounds, donc ça veut dire c'est une communauté où il y a vraiment un mur autour et on est quand même séparés de la communauté. Moi, j'étais dans une école anglophone internationale, américaine, dans le fond, pour toutes mes années là-bas. Mm-hmm. Et j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens d'un peu, de partout, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'expatriés qui travaillent au Moyen-Orient aussi, parce qu'on avait aussi la chance de voyager des fois, visiter d'autres écoles dans d'autres pays, d'autres villes et tout aussi.
Et à l'école, vous ne sentiez pas la différence parce que, bon, vous étiez justement,
c'est
comme
ça,
vous dites, avec des gens de tous les pays, finalement?
Oui, exactement. En fait, c'était une expérience très intéressante, dans le fond, parce que presque tous les élèves, tous les enfants, tous les élèves, tout le monde là-bas, ils sont, bien, on appelle ça les enfants de troisième culture. C'est un concept assez nouveau. En anglais, ça s'appelle the third culture kid. Mm-hmm. Et en fait, c'est un enfant, une personne qui a passé une partie importante de ses années de croissance dans une autre culture à part de celle de leurs parents. C'est vraiment, ça crée une communauté où il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a beaucoup d'ouverture mm-hmm. Envers les autres, la diversité. Et ça donne vraiment une chance de faire plusieurs, beaucoup d'échanges culturels avec des gens de partout.
Qu'en est-il de la religion là-bas? Est-ce que justement mm-hmm. dans cette école-là, c'était plusieurs religions? Tout à fait.
Non, c'est plusieurs religions. Il y avait vraiment, de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les nationalités. On avait des gens de Moyen-Orient, des Arabes, des Nord-Africains, des Pakistanais, des Chinois, des Coréens, des Sud-Africains. C'était vraiment une communauté multiethnique et mm-hmm. multiculturelle.
Et vous, vous vous sentiez comment? Est-ce que vous sentiez, étant donné que, bon, vous dites, je suis née au Québec, ensuite je suis mes parents.
C'est ça.
Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes déboussolée? Est-ce que...
En fait, je pense que ça m'a donné vraiment... je pense que avoir ces expériences-là et avoir ces trois identités, dans le fond, parce mm-hmm, que mm-hmm. en même temps, j'ai grandi en Moyen-Orient, donc ça fait partie de ma culture aussi un petit peu. Des fois, je me sens un peu pris entre ces cultures-là, mais ça m'a vraiment aidée, je pense, dans mon travail personnel et aussi professionnel, d'être capable de créer des liens entre des personnes différentes, entre des concepts différents, entre des domaines différents aussi. Mm-hmm. Donc,
l'ailleurs, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, en dehors de votre école, qui est assez extraordinaire parce qu'il y a plusieurs religions, plusieurs pays, puis tout le monde s'entend très bien. Oui. Mais à l'Arabie saoudite, on sait très bien que, les femmes n'ont même pas le droit de conduire.
Oui, c'est ça.
C'est toute une autre culture.
Exactement.
Un retard à ce niveau-là. Comment vous étiez comme jeune fille, parce que là, vous avez 24 ans, est-ce que vous étiez consciente de ce qui se passait?
Oui, je pense qu'on était tous conscients, mais je pense que comme enfant, on n'était pas trop affectés. C'est sûr que nos mères conduisaient pas des autos, mais on avait toujours des moyens de faire des choses. Et surtout dans la vie de compound, dans la petite communauté où on habitait, on avait vraiment la chance de faire tout. On n'avait pas besoin de s'habiller d'une façon spécifique.
Vous en mettez le voile?
Non, pas du tout. Quand on sortait du compound, je gardais toujours une voile avec moi. J'avais tout ça s'appelle un abaya qu'on mettait par-dessus nos vêtements. Je gardais toujours une voile avec moi, mais je le portais des fois et des fois non. Ça dépendait. Des fois, il y avait des Saoudiens qui sont venus nous voir et disaient, vous êtes des visiteurs dans notre pays et la culture, c'est important que vous respectez la culture. Et je pense que c'est vrai que c'est important en même temps de respecter la culture quand vous êtes dans un pays où il y a des règles un peu différentes, mm-hmm. où il n'y a pas peut-être peu de liberté. Ouais, c'est quand même...
Comment vous réagissiez quand on vous disait ça? Ben, c'est important de mettre le voile, c'est important de respecter la culture.
Ouais, ben, je pense qu'en même temps, c'est important de... C'est important parce qu'il faut penser aussi qu'on n'est pas dans un pays nécessairement libre. Ce n'est pas une démocratie. Mm-hmm. C'est une place où il y a une monarchie, il y a des règles, il y a des gens qui suivent les règles et c'est juste ça. Et quand on est dans une place fermée comme ça, il faut avoir quand même d'être sensible un petit peu aux pensées des autres et...
aux cultures.
Oui, leur culture.
Aux cultures. Dans la maison, vos parents, comment ils sont? Est-ce que ce sont des gens, des militants? Ce sont des gens qui vous ont transmis ça? Est-ce que...
En fait, oui. Ben, parce que le fait que j'ai des parents de deux différents... origine,
c'est ça.
C'est un peu, ça existe déjà dans leur leur relation entre eux et
oui,
notre
ça.
Relation familiale. Donc, je pense que c'est quelque chose que je comprenais. C'était assez normal pour moi. On allait visiter ma famille au Pakistan. On venait ici voir mes grands-parents. Tu sais, la famille de mon père, ils sont musulmans et nous aussi, on est musulmans. Mais la famille de ma mère, ils sont catholiques. Donc, il y avait toujours... on avait toujours besoin de gérer ces différences-là. Donc, j'étais habituée, je pense, à le faire. J'ai pas vraiment pensé trop... À ça. Et
c'est naturel.
Oui, c'est
quoi.
Ça.
C'est
exactement.
Naturel. Alors, on va tout de suite à une pause musicale et on a choisi pour vous la grondeuse marocaine, un air québécois interprété par la marocaine Hassan El Hadi et Yves Lambert. Donc, on l'écoute. Chicken, C'est un petit peu vous, ça, cette chanson-là, Fatima Saya, c'est-à-dire mélange de culture.
Oui, c'est
le
ça,
Québec est bien présent.
Un mélange de tout, ouais, c'est exactement ça.
Alors, on revient sur l'Arabie Saoudite. Donc, oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? Les bonnes choses, les mauvaises choses, ce que ça vous a apporté?
Oui, des bonnes choses, je pense. C'est sûr que je pense pas que je retournerai là-bas, vivre là-bas comme adulte, parce que quand même, il y a pas dans mon domaine, surtout dans la communautaire, il y a pas vraiment beaucoup de travail pour des femmes. Mais c'était quand même, quand j'étais jeune, c'était quand même une expérience que j'ai vraiment appréciée. J'ai vraiment eu la chance de apprendre beaucoup sur les cultures. On avait aussi beaucoup de chance à voyager parce que, dans le fond, on était en milieu de tout, là. Donc, et mes parents aiment vraiment voyager aussi. Donc, j'étais capable de voir beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'expériences culturelles qui m'ont vraiment touchée.
Est-ce que vous avez conservé des amis de la petite école là-bas?
Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, absolument. En fait, j'ai encore beaucoup d'amis. Ils sont vraiment partout dans le monde aussi, parce que tout le monde venait de différentes places. Je suis allée visiter des amis en Suède, en Égypte, en États-Unis aussi, pour garder ces liens-là, parce que sont quand même des liens très, très forts, parce que quand on est là, dans une place un peu étrange, et comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de liens qui sont faits avec la communauté saoudienne. Il faut avoir des amis autour de nous. Il n'y a pas grand-chose à faire aussi non plus. On avait
l'école.
Donc,
vous avez votre famille,
donc c'est ça.
Une famille d'amis,
oui,
c'est ça?
Oui, exactement. Ouais, c'est, ouais. Ouais, c'est...
Quand vous revenez au Québec, vous êtes encore adolescente?
Oui, j'ai fait mon secondaire 5 ici.
Ouais. OK. Ouais. Êtes-vous transformée?
Oui. Le retour était un peu difficile, je pense qu'au début, juste parce que je pense j'étais habituée à un certain genre de monde et des personnes avec un peu les mêmes expériences que moi, des gens qui ont voyagé, qui étaient ouverts, avaient une ouverture d'esprit. Donc, revenir, c'était un peu difficile. J'étais chanceuse, mes parents m'ont mis dans une école assez petite, donc la première année est passée quand même bien. Quand je suis rentrée au cégep, par contre, c'était tout un culture shock assez pointu, juste parce que j'étais juste pas habituée. Il y avait des... au cégep, tu sais, les élèves commencent à fréquenter des bars et des choses comme ça, et je me sentais pas... que j'avais pas nécessairement une communauté qui était vraiment ma communauté au cégep.
OK. Donc là, c'est un petit peu un choc culturel,
oui,
mais dans l'autre
ça.
Sens. C'est intéressant.
Oui,
hein?
Exactement, parce que c'est sûr que quand on revient ici, et je pense que beaucoup de fois, c'est surprenant, mais Montréal et je pense le Canada aussi, je pense que des fois, même si on est impliqué dans le monde à l'extérieur, on est un peu fermé des fois. C'est comme ça que c'est. Ma communauté, c'était vraiment internationale en Arabie Saoudite, et ici, c'était vraiment plus québécois-canadien. Donc, c'était juste différent. Et c'est pour ça, je pense que j'avais de la difficulté aussi à trouver des amis qui comprenaient
non,
des choses.
Une fois qu'on a voyagé, on n'est plus les mêmes.
Ben oui, c'est ça, exactement.
On n'est jamais les mêmes.
Oui, exactement.
Et surtout, habiter ailleurs.
Ouais.
On perd un peu ses racines, on en retrouve d'autres.
C'est ça, c'est
on a des racines un petit peu partout.
Ouais. Oui, exactement.
Et quand vous arrivez au cégep, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Parce que souvent, ça se dessine à cet âge-là, puis parfois, on change.
Oui, c'est ça. En fait, quand j'avais commencé à faire mes applications pour rentrer au cégep, en fait, dans le passé, toute mon enfance, au secondaire, je voulais toujours être médecin. Toujours, toujours, toujours. Et finalement, quand j'avais commencé à faire tous les papiers pour rentrer au cégep, j'étais un peu stressée parce que je sentais que si je ne m'impliquais pas dans le monde international, dans mon travail, je n'étais pas capable de le faire, de faire partie de ce monde encore.
Okay.
Donc, je voulais vraiment garder cette partie.
Sauf être médecin sans frontières, par
oui,
exemple.
Oui, c'est ouais. ça,
mais vous, vous
c'est
étiez...
quand même difficile. Ça prend longtemps oui, et des choses comme ça.
Il y a beaucoup de candidates et candidats
ça,
qui veulent l'être, effectivement.
Donc, j'ai vraiment pensé, OK, mais je pense que je vais rentrer dans un programme plus dans les sciences sociales. Mais c'était assez difficile aussi, tu sais, même avoir un père pakistanais immigrant qui dit, OK, ben il faut travailler, il faut vraiment avoir un travail très, très... il faut travailler fort parce que c'est pour ça qu'il est arrivé ici en 1972.
Oui.
Là. Il est arrivé ici parce qu'il voulait des opportunités pour ses enfants.
Oui. Qu'il y ait des bonnes études, qu'il
réussisse. C'est ça, exactement.
Ça.
Donc, mon père, je pense qu'il était un peu inquiète. Il disait, OK, ben si tu veux étudier l'histoire et les sciences humaines, là, il faut être sûr que tu es capable de créer une carrière de ça aussi
Est-ce qu'il était
après.
inquiet un peu de savoir que vous avez, bon, vous vouliez plus être médecin, mais aller dans les sciences humaines, est-ce qu'il était inquiet pour vous?
Oui, sûrement. Oui, même ma mère, je pense qu'elle était un peu inquiète aussi. Mais j'ai pensé longtemps et j'ai vraiment réalisé que non, c'est ça que j'aimerais faire et j'ai commencé le chemin.
Parce que il y avait l'appel à l'international toujours,
oui, c'est ça,
qui vous poussait déjà,
exactement.
Le côté social.
Ouais.
Est-ce que vous avez aimé vos années au cégep?
Oh, j'ai adoré ça. J'étais dans un programme incroyable. Je suis allée à Marianopolis. C'est un programme, je ne sais pas si ça existe dans les cégeps français, ça s'appelle Liberal Arts. Je pense que c'est pas exactement...
Concentration d'art, peut-être?
Oui, ben, je pense que c'est pas art et lettres, c'est un peu différent. C'est plus avec... on parle beaucoup de l'histoire, mais chaque session parle d'une période en histoire. Donc, on commençait avec vraiment toutes les religions anciennes et l'histoire de Rome et Grèce.
C'est sûr que c'est...
On voyageait vraiment dans l'histoire.
Intéressant, ça.
Oui, c'est incroyable.
Marianopolis aussi sont très bons pour la musique.
Oui, c'est vrai aussi.
Ils sont très forts là-dedans.
Oui, ils sont très forts en beaucoup de choses. C'est une
donc, des bonnes années, quoi.
Oui, oui, j'ai vraiment appris beaucoup. Et quand je suis rentrée à McGill, j'étais vraiment prête aussi à commencer.
Alors, on a fait un autre choix musical cette fois-ci, étant donné qu'on va en parler, l'intimidation
Parfait.
À l'école, chanson de sujet. Cours d'école, et cette fois-ci, c'est Danny Placard.
Je sais pas pourquoi y a pas personne qui vient me parler d'un cours d'école. Je tourne en rond pendant que les autres jouent au ballon. Je sais pas pourquoi c'est toujours moi que les plus grands viennent écœurer. Je me console en me disant qu'un jour ça devrait bien être à leur tour. À leur tour. De dire un mot pour me faire pousser d'un trou d'eau. J'suis toujours assis tout seul dans mon banc d'autobus. J'me fais toujours voler ma tuque par le grand slack de la côte Saint-Luc. Je me console en me disant qu'un jour ça devrait bien être à son tour. À son tour. sans toi.
Belle chanson, mais très, 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 très significative pour vous, parce que vous l'avez prise, cette chanson, pour,
oui, ben
avec
en fait,
vos élèves.
C'est, ben en fait, c'est une de mes collègues, mes anciennes collègues, qui a utilisé cette chanson pour faire un projet avec ces jeunes où ils chantaient la chanson eux-mêmes. Ils ont fait un vidéo, un petit vidéoclip par rapport à cette chanson-là. C'était vraiment intéressant aussi. Je pense que c'était dans l'ouest de l'île qu'on avait fait ce projet-là. Chez Ensemble.
Ensemble, on va en parler tout à
oui,
l'heure
parfait.
Parce qu'on est là pour ça. Puis je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on reçoit Fatima Saya, qui est médaillée de la paix 2014 du YMCA. On était rendu au cégep, donc ça se passe très bien.
Oui.
Vous avez du plaisir au niveau mental, vous êtes nourrie.
Oui, vraiment.
Vous parlez de l'histoire et tout ça. Et là, est-ce que ça se profile davantage sur ce que vous voulez faire plus tard?
Oui,
à ce moment-là?
Ben, en fait, j'ai commencé McGill en 2009. J'ai étudié sciences politiques et développement international. Donc, j'étais chanceuse qu'il y avait ce programme-là qui existait à McGill pour... pour moi, McGill aussi, c'était une expérience vraiment incroyable. Des professeurs, des élèves, c'était un environnement très enrichissant aussi. C'était bien aussi parce que c'était une école aussi plus internationale. Donc, j'avais vraiment la chance de
vous
rencontrer...
Vous retrouvez votre enfance, là!
C'est ça, exactement. En fait, il y a plusieurs... plusieurs élèves qui aussi ont passé plusieurs années à l'étranger, des choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup d'autres enfants de troisième qu'une sœur là avec moi.
Alors donc, est-ce que ça discute? Est-ce que vous êtes le style à monter sur les bureaux pour défendre des causes ou pas pendant que vous êtes à McGill? Est-ce que vous êtes tranquille ou...
Ben, en fait, moi, j'étais pas très impliquée avec les conseils d'étudiants, des choses comme ça, parce qu'en fait, moi, je travaillais à temps partiel et j'étais à l'école.
Occupée, quoi.
Donc, j'étais vraiment occupée, mais donc la vie étudiante n'était pas nécessairement quelque chose pour moi, très important.
Très important. Alors, on revient, on fait une pause, mesdames, messieurs.
D'accord.
On revient tout de suite après.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Fatima Saya, donc le McGill, ça se passe bien, mais bon, vous vous impliquez pas trop avec les étudiants.
Non, pas trop. Ouais. Mais j'étais impliquée quand même avec des organismes. Ben, il y avait un organisme qui a commencé dans mes dernières deux années à McGill après. Après le Arab Spring, là, et c'était un organisme qui s'appelle Arab Development Initiative. C'est l'initiative du développement arabe. Et on faisait des conférences par rapport au développement au Moyen-Orient. On a fait trois conférences. Ils ont fait la première ici à Montréal, deuxième à New York. On avait fait une conférence là-bas. Donc, j'étais impliquée, mais dans des choses différentes un petit peu.
L'extérieur toujours vous intéresse.
Oui, c'est ça.
Et je pense que vous finissez pas vos études, que vous partez au Pakistan?
Oui, exactement. Je suis partie faire un petit contrat au Pakistan. J'ai travaillé pour l'organisme Teach for Pakistan.
OK.
En fait, c'est un organisme américain qui a commencé dans les années 90 et c'est vraiment un organisme qui va chercher des étudiants à l'université pour aller travailler dans des écoles comme enseignants après qu'ils ont fini l'école, dans des milieux défavorisés. Donc, c'était la première année que ça commençait à Karachi, donc j'étais là pour le déroulement du premier programme.
Alors, comment ça se passe? Parce que ça, c'est la moitié de vous, hein,
oui, exactement.
Évidemment, de vos parents. Et c'est
oui,
toujours
c'est
touchant quand on va à la rencontre de nos racines.
Exactement.
Comment vous vous sentez quand vous allez au Pakistan? Est-ce que vous sentez que vous êtes comme eux, différente?
Ben, je pense que j'ai toujours... je me sens un peu toujours différente, même ici. Je suis quand même un peu différente. Je suis pas complètement québécoise ni complètement pakistanaise. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de distance. Il y a toujours un peu de distance. Uh-huh. Mais c'était une expérience vraiment extraordinaire. Je voulais vraiment commencer mon travail au Pakistan parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important. Il y a tellement de travail important qu'ils font là-bas. J'étais vraiment chanceuse de travailler pour cet organisme-là. C'était une expérience professionnellement vraiment enrichissante.
Qu'est-ce que vous deviez faire là-bas comme travail? C'était quoi votre travail?
Ben, donc, on avait organisé la formation pour les enseignants, pour qu'ils puissent aller dans les écoles et enseigner dans les écoles primaires. Mm-hmm. Donc, je faisais partie de l'équipe qui préparait la formation qui durait à peu près 7 semaines. Et on avait 3 semaines où on était dans une école, dans un quartier défavorisé à Karachi, où on faisait un peu comme un « summer school ».
Comment était votre rapport, justement, avec Karachi, au niveau de la pauvreté, avec les enfants et tout ça? Comment vous sentiez là-dedans?
Oui, bien, c'était pas la première fois que je suis allée à Karachi. On allait quand même au moins une fois par année quand j'habitais en Arabie Saoudite, parce que c'était quand même proche. La famille de mon père, j'ai encore de la famille qui habite là-bas. Donc, j'étais quand même habituée, mais c'était une autre façon de voir des choses aussi, parce que je suis jamais allée à l'école à Karachi. Je suis jamais rentrée dans une école publique à Karachi avant cette expérience-là. Et la chose qui m'a vraiment marquée, c'est que les élèves, en fait, c'est une école pour filles, les jeunes filles, ils avaient tellement de passion, ils voulaient tellement apprendre, ils étaient tellement intéressés par le monde dehors, leur petite école, c'était vraiment merveilleux à voir.
Vous parlez la langue?
Je parle la langue. Des fois, c'est un peu comme mon français, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, ma mère me parlait juste en français, mon père me parlait juste en ourdou, mais ils parlaient anglais ensemble, entre eux. Donc, quand j'ai réalisé ça, je pense que j'avais peut-être 2-3 ans, j'ai vraiment commencé à parler anglais et c'est ça qu'on parle à la maison aussi, parce que c'est comme ça que mes parents communiquent.
Mais vous comprenez quand même?
Oui, je comprends et je parle aussi, mais mon vocabulaire, des fois, j'oublie des mots. C'est quand même une langue très, très complexe.
Et très, très complexe, mais quand même assez pour... Quand vous avez travaillé là-bas, c'est pour comprendre.
J'étais assez à l'aise à comprendre, à parler. J'étais capable de suivre des formations, mm-hmm. de parler avec les élèves. Tout ça, c'était correct, mais un défi aussi.
Un défi. Quand vous n'avez pas peur, de toute façon, vous, des défis.
Non.
Fatima, quand vous revenez, donc là, vous terminez vos études.
C'est ça.
Et quand est-ce que Ensemble rentre dans votre vie?
Bien, Ensemble, en fait, rentrer dans ma vie... à peu près 9 mois après que j'ai fini mes études. C'était une période assez difficile. Le communautaire, on a vraiment c'est un domaine qui existe vraiment à Montréal. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, il y a beaucoup qui se passe dans la communautaire, mais c'est assez difficile de rentrer dans ce domaine-là. C'est difficile de trouver des emplois, c'est difficile de...
Pourquoi, pensez-vous?
Je sais pas, je pense que le financement, honnêtement, tous les organismes à but non lucratif, tous les organismes communautaires sont pas toujours bien, bien financés, malheureusement. Mais pourtant, ils font du travail très, très important.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, je pense que c'est pour ça que c'était difficile, ces 8-9 mois-là. Et je pense que mes parents aussi étaient vraiment inquiets parce qu'ils ont dit, écoute, là, tu sais, t'as commencé tes études en sciences humaines, sciences politiques, développement international, mais maintenant, tu n'as pas d'emploi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer aussi dans le futur si tu n'es pas capable de trouver quelque chose dans ce domaine-là? Et c'est vraiment ça que tu veux faire?
Ben oui, parce que j'imagine que quand vous êtes partie pour Teach for Pakistan, vous étiez carrément dans votre domaine. Et
oui, exactement.
C'est là que vous avez eu vraiment l'appel, Jim, à ce moment-là?
Oui, c'est sûr. Mais en fait aussi, je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose à Montréal aussi, parce que Montréal aussi, ça fait partie de ma culture, le Québec. Et c'était une façon très, très intéressante pour moi d'apprendre plus sur ma ville et ma communauté.
Sur qui vous êtes,
ici.
Finalement.
Oui, c'est sûr. J'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant les deux... cette année, ça fait à peu près un an et demi que je travaille chez Ensemble.
Ouais. Oui, c'est ça. Alors, 9 mois plus tard, Ensemble arrive dans
c'est
votre
ça,
vie.
Exactement.
Et alors, il faut dire un petit peu, pas un petit peu, mais il faut dire complètement ce que c'est
oui,
comme
exactement.
Organisme.
C'est ça. Donc, en fait, on est un organisme à but non lucratif et on a comme mission d'agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et engager la dialogue afin de bâtir un environnement sans discrimination ni intimidation. Donc, c'est ça le but. Donc, on a des programmes d'éducation, de sensibilisation et on favorise vraiment une prise de connaissance de la part des jeunes quant à leur responsabilité face à l'intolérance dans leur milieu. Donc, c'est ça notre travail.
Alors, on va revenir tout de suite après. Oui. On va parler de différents dossiers. Bon, un Québec inclusif et l'intimidation, ça c'est vraiment... Et ce que vous faites avec la caravane, dans les écoles et tout ça, parce que vous êtes animatrice. On écoute une chanson qui est tout à fait pour vous, d'Amadou Mariam, La Paix.
Parfait.
Vive la solidarité entre le peuple. Vive la solidarité entre le peuple. Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinéen, Ghanaien. Vivez la solidarité entre le peuple. Yeah.
Fatima, Saya, qu'est-ce que ça vous dit quand on parle de la paix?
Oh mon Dieu, quand on parle de la paix, pour moi, la paix, c'est vraiment d'avoir une ouverture. Une ouverture d'esprit de non juste respecter, mais donner la parole aux gens, même s'ils sont différents. Mm-hmm. Parce que je crois vraiment qu'on a toutes des expériences, des opinions et des valeurs qu'on peut partager. Et c'est comme ça qu'on apprend. Vraiment sur, pas juste les autres, mais sur nos communautés, notre vie, notre monde aussi.
Il n'y a pas de mal à être différent.
Non.
L'intimidation, c'est un fléau, hein? Il ne faut pas avoir peur des mots. Ça commence, mais alors vraiment très jeune, au primaire. Oui. Les gens se disent, ah, l'intimidation, c'est pas vrai, c'est plus tard. Ça commence tout petit, là. Il se fait voler son lunch.
Ben oui.
C'est épouvantable, il faut s'en occuper. On dirait qu'il n'y a pas assez de moyens dans les écoles. Mm-hmm. Et vous avez cette espèce de caravane qui va justement rencontrer les élèves. Comment ça fonctionne avec votre
Exactement.
Organisme ensemble?
Bien, dans le fond, on a deux programmes. Donc, on a les ateliers qu'on fait dans des écoles. Mm-hmm. Donc, pour les élèves au premier cycle, ça veut dire les élèves en secondaire 1 et 2, et aussi, en fait, au primaire, on a un programme primaire. On parle beaucoup de l'intimidation, l'affirmation de soi, l'empathie. Donc, on a ces ateliers-là. Aussi, l'autre programme qu'on a, c'est le projet Empreinte. Et moi, je suis chargée de projet du projet Empreinte. J'ai 4 écoles où je travaille et j'ai cette année 3 écoles, en fait, qui essayent de régler ce problème d'intimidation dans leur école. Avec ce programme-là, c'est un programme de mobilisation des jeunes où on crée des comités d'élèves qui s'occupent de trouver des actions, des solutions pour certains enjeux.
Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, bon, il y a une école qui serait à l'écoute, qui a une problématique d'intimidation, que ce soit au primaire ou au secondaire. Bon, on a vu qu'Empreinte, c'est plus tard. La caravane se promène au primaire, mais Empreinte, c'est un autre programme. Comment ça fonctionne? Et on n'y arrive pas. On a vu très bien qu'avec un policier qui vient une fois par semaine et maintenant, ils ont coupé là-dedans. C'est pas suffisant. Il y a toujours autant d'enfants qui sont malheureux. Comment ça se passe?
Ben, vous voulez dire...
au niveau de l'organisation, si une école fait affaire avec vous, comment ça se passe? Par exemple, moi, j'ai une école, je sais que j'ai de l'intimidation, je suis directrice d'école. Mm-hmm. Je vous appelle et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
Dans le fond... On les invite à inviter la caravane parle de l'intimidation. On rejoint plus de 25 000 jeunes par année à travers le Québec et le Canada aussi. On avait une équipe la semaine passée qui était à Toronto dans une école francophone. On visite vraiment plus d'une centaine d'écoles quand on rentre dans les écoles là, on est là vraiment pour parler avec les jeunes pour savoir plus sur leur vécu, leurs expériences, c'est quoi qu'ils voient et comment ils voient ça, l'intimidation, est-ce qu'ils sont au courant de comment ça se passe, comment ils se sentent quand ils voient de l'intimidation dans leur école. On parle beaucoup de l'empathie, de comment... à avoir plus de l'empathie envers les autres, surtout quand on les connaît pas. Et aussi, on parle de comment s'affirmer dans une situation d'intimidation. Donc, on donne vraiment des outils aux élèves pour qu'ils soient capables de gérer ce problème-là, parce que c'est sûr que l'intimidation arrive et des fois, c'est pas toujours que les enseignants voient.
Non, c'est
tout
ça.
Ce qui se passe
c'est
dans
pas
les
évident,
couloirs, dans
partout.
Les corridors, dans le parc à côté de l'école. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'outiller les jeunes, surtout les jeunes qui voient ou entend parler de ces cas de l'intimidation.
Et c'est à travers aussi le théâtre. Il y a des pièces de théâtre, il y a du théâtre qui fait en sorte que là, il y a l'effet miroir, les gens se reconnaissent aussi.
Oui, bien, en fait, on fait un peu des théâtres forums des fois avec les jeunes parce que c'est vraiment un atelier interactif où on demande les jeunes à participer avec nous parce qu'il faut avoir leur participation si on veut savoir plus sur leurs expériences et leur vécu. Dans le passé, oui, en fait, ensemble, on faisait des pièces de théâtre, mais maintenant, on est plus faire outiller les jeunes pendant ces ateliers interactifs.
Et vous, quand on parle d'intimidation, est-ce que vous arrivez à dire, à force de visiter les jeunes, à dire « il y a ça, c'est pour ça qu'il y a l'intimidation », trouver les causes,
Je pense que...
C'est multifactoriel.
Oui, c'est sûr que c'est multifactoriel. C'est quelque chose qui arrive, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui...
C'est juste un nouveau nom, finalement.
Oui, exactement. C'est quelque chose qui...
Parce qu'on, à l'époque, les gens disaient, je me fais embêter.
Ben oui, exactement. Moi aussi, j'étais intimidée quelques fois dans ma vie. Je pense que c'est assez normalisé, malheureusement. Mais c'est pour ça que c'est important de vraiment parler aux jeunes, de les expliquer de traiter les autres avec le respect. C'est important. Mais je pense que honnêtement, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qu'on essaie de régler. Il y a beaucoup de différentes raisons pour ça. Personnellement, je crois que nos jeunes, malheureusement, n'ont pas des réseaux sociaux, je parle vraiment de leurs amis dans leur quartier ou dans leur école, très diversifiés. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours un gang d'amis dans des places différentes. C'est presque toujours dans la même école. Donc, dans le passé, par exemple, on avait des plus grandes familles, on avait des cousins, des cousines un peu. Ben, tu sais, pendant le week-end, on allait voir ces amis-là. Pendant la semaine, on était là. Des fois, on a des amis avec qui on...
Donc, le support est très restreint, c'est ça?
Exactement. Et je pense que ça crée un problème pour les jeunes parce que si ça va pas bien dans une place, mais c'est la seule place où tu as vraiment une communauté autour de toi, si ça va pas bien là, c'est extrêmement difficile et lourd
de s'en sortir.
C'est ça.
Parce que l'intimidation peut aller très loin, jusqu'au suicide, jusqu'au décrochage scolaire.
Ouais,
et d'ailleurs,
malheureusement,
une des plus grandes causes du décrochage, c'est souvent l'intimidation.
Oui.
Parce que les gens n'en peuvent plus de se faire garrocher des sandwichs puis dans l'autobus, comme disait dans la chanson. Et puis, retrouver son estime de soi, c'est pas facile non plus.
Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est très, très important de outiller les jeunes et de les dire qu'il y a beaucoup de ressources, parce qu'il y a souvent beaucoup de ressources qui sont... pas très, très utilisé à l'école non plus parce que les élèves, des fois, ils font pas confiance au système qui peut les aider. Donc, je pense qu'être là pour les dire qu'il y a ces outils-là qui peuvent vous aider, c'est important.
Et Fatima, avec votre organisme ensemble, quand vous passez dans les écoles, vous avez parlé de 25 000 jeunes, est-ce qu'il y a une espèce de reconnaissance du fait que les enfants finissent par parler suite à votre passage?
Ah oui, c'est sûr. Et je pense qu'ils nous écoutent beaucoup. En fait, ça m'est arrivé... cette année, j'ai un comité empreinte à l'école Ladeau-Versière. L'année passée, on est passé pour faire la caravane là-bas. Il y avait une de mes jeunes on parlait des cas d'intimidation. On essaye de faire... on va faire un petit théâtre, une pièce de théâtre à l'école là-bas comme projet cette année. Et on parlait des situations. Il avait sorti des idées. Il était comme, l'année passée, on avait vu des films vraiment intéressants. On avait des présentations. Il y avait ce cas d'intimidation qui est arrivé avec une fille qui fait pousser dans les couloirs, et c'était vraiment une de nos films. Donc, on sait que ça les touche. Il y a un impact. Ils se rappellent des choses qu'ils entendent, qu'ils voient. Et des fois, c'est difficile parce que c'est sûr que les élèves aussi sont tannés d'entendre ce mot-là, l'intimidation. L'intimidation, c'est partout, partout. Ils sont sensibilisés de mille différents côtés.
Mais il faut les toucher, il faut savoir les toucher.
Il faut les toucher. Mm-hmm. C'est pour ça qu'avec nos ateliers interactifs, on les donne la parole aussi. Et ça les donne la chance de vraiment partager leurs expériences, leurs idées. Et ça, je trouve que c'est incroyablement important.
Alors, on fait une pause musicale et on revient avec le jeu questionnaire pour la fin de l'émission. Fatima, Saya, nous sommes rendus au jeu questionnaire. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Oh mon Dieu! Je pense que les enseignants que j'avais, surtout en Arabie Saoudite, à l'école américaine là-bas, c'était des personnes vraiment incroyables qui venaient de partout, qui avaient des expériences de partout. Parce qu'aussi, les enseignants qui travaillent à l'international, ils voyagent beaucoup. D'habitude, c'est des contrats de 3-4 ans. Et donc, ils amènent des expériences avec eux qui m'ont vraiment touchée. C'était vraiment des personnes incroyables.
Est-ce qu'elles vous ont montré la voie, ces personnes-là?
Oui. Oui, vraiment. C'est sûr que j'avais des étudiants qui m'ont vraiment qui ont fait en sorte que moi maintenant je suis intéressée à l'international, à ce domaine-là, à la diversité, des choses comme ça.
Vos mentors?
Des mentors, je trouve ça un peu difficile en fait parce que moi je pense que c'est plus des expériences que j'avais qui m'ont affecté plus que des personnes fameuses ou connues ou moins connues aussi. Mais c'est vraiment les expériences parce que je pense que chaque fois que je voyage, je rencontre des gens qui ont tout leur bagage d'expérience. C'est vraiment ça qui pour moi, est enrichissant.
Les livres que vous nous recommandez?
Les livres que je recommande. En fait, un livre, c'est un peu la poésie, c'est le prophète de Khalil Gibran, qui pour moi c'était un livre tellement important quand je suis rentrée à l'université. C'est vraiment une philosophie, honnêtement, il était quand même un philosophe très intéressant et important. Et son livre m'a touchée beaucoup et m'a donné beaucoup d'espoir aussi.
Alors, le prophète de Khalil Gibran, vos artistes préférés?
Artistes préférés? C'est sûr que si je ne dis pas les Beatles, ma mère et mon oncle et mon père qui écoutent vont dire « Ah, t'as pas dit les Beatles! » Parce que nous, comme famille, on adore les Beatles.
Ils ont entendu ça pas mal.
Exactement. Okay. Mais aussi, plusieurs autres. Il y a un groupe, en fait, libanais. Ils sont venus à Montréal deux fois, je pense, l'année passée et l'année d'avant. Ils s'appellent Meshrou Alayla. Ils sont un groupe vraiment intéressant, différent aussi. Ils parlent des situations sociales, politiques.
On va le mettre sur notre site. De toute façon, tout est sur le site Internet. Mais ça, je vais aller mettre ça dans ma discothèque, comme on dit.
Oui.
Vos villes préférées?
Oh, villes préférées. Je veux dire, Berlin. Je suis allée quand j'avais 16 ans ou 15 ans avec mon école. En fait, je jouais aux clarinettes. Il y avait une conférence là-bas où on était allé jouer la musique avec les autres écoles internationales. Et c'était une ville tellement incroyable parce qu'il y a tellement d'histoire. Et la ville était intéressante parce que c'est vraiment... Il y a deux côtés de la ville. Il y a le côté communiste, qui était communiste, et l'autre côté, et c'était un mélange vraiment intéressant.
Alors, Berlin, et une dernière en
terminant? Une dernière, Cape Town.
OK.
Ouais. c'est une ville aussi très, très multiethnique parce que, dans le fond, il y a aussi des Pakistanais, des Indiens qui sont arrivés là-bas il y a vraiment, vraiment longtemps. Il y a vraiment une belle culture dans cette ville-là.
Merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous. Pardon. Et bravo pour votre prix pour la paix.
Merci.
Au plaisir, Fatima Sayan. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna et Claudia Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, mesdames, messieurs.